Donc bienvenue pour ce colloque qui va durer un jour et demi, donc sur l'analyse chimique, histoire et innovation. Et donc je vais vous faire d'abord une petite introduction par rapport à la session de cet après-midi. Et puis demain, je vous ferai une autre introduction puisque cet après-midi est très différente du programme de demain, comme vous l'avez vu. Donc d'abord, et comme par rapport à mes cours, hein, pour ceux qui les ont suivis, sur l'affiche, vous avez une image d'un tableau, en fait un fragment d'un tableau, que vous n'avez pas forcément immédiatement reconnu et sur lequel je voudrais juste revenir. Donc, il s'agit d'une œuvre de Roy Lichtenstein qu'il a peint sur toile et qu'il a été réalisé également en lithographie. Donc là, vous avez l'image de la lithographie du MoMA aux États-Unis. Donc une œuvre faite en 1970, donc Peace Through Chemistry. Donc vous voyez bien le titre et le contenu de tout cela, et qui est une œuvre qui a été conçue, expliquait-il, et ont expliqué les historiens après, comme un dessin rébus. Une sorte de triptyque, vous voyez bien les trois parties, hein, avec trois tonalités colorées différentes, qui font apparaître différentes relations entre l'homme et la nature, et l'harmonie qui peut exister entre l'homme, la technique et la nature. Vous voyez à gauche un fragment de soleil rayonnant et une branche de laurier, donc dans un esprit plus naturel, qui peut nous amener notamment vers la préhistoire, une machine et l'industrialisation au centre, et puis un profil anguleux d'un chimiste, avec bien entendu son tube à essai. Donc voilà, c'est une œuvre que je trouve très symbolique, un petit peu des possibilités, et puis de cette réunion qui va viser à essayer de comprendre à la fois ces instrumentations, cette manière qu'a eu l'humanité au cours des temps de concevoir des instruments, jusqu'aux toutes dernières innovations aujourd'hui, par rapport au domaine notamment biomédical, ou par rapport au domaine de l'histoire des matériaux, puisque ce seront les deux axes principaux des différentes présentations pendant ces deux jours. Donc cet après-midi est une après-midi dédiée sur l'histoire d'une approche de la chimie analytique. Et donc, vous savez tous, hein, si vous avez suivi mes cours ou si vous me connaissez un petit peu, que je considère et que cet apport de la chimie analytique pour l'histoire des sciences et des sociétés est un aspect fondamental de mes activités de recherche et de manière plus générale d'un certain nombre de laboratoires aujourd'hui. Et c'est l'occasion un petit peu d'en faire un point avec une vision particulière durant ce colloque. Donc, cette chimie analytique permet de dresser un inventaire des connaissances humaines, de mieux comprendre certaines évolutions de savoir technique, de la condition de mise en place d'innovation technologique au sein de cultures avec leurs préoccupations, leurs conceptions philosophiques, leurs conceptions des relations entre l'homme et la nature, et aussi leurs productions qui peuvent être aussi bien littéraires qu'artistiques, notamment, et les points qui m'intéressent le plus. Et donc c'est pour ça que j'ai organisé cette première section du colloque pour traiter de ces questions relatives à l'histoire de la chimie analytique et à ses apports par rapport à cette dimension historique. Et si on prend tout de suite un petit peu un point de vue d'historien des sciences, il faut vraiment attendre le début de la chimie analytique qui a été fondée à partir des concepts énoncés à la fin du XVIIIe siècle par Antoine-Laurent Lavoisier et Joseph Priestley, puis par la mise au point de méthodes d'analyse très variées. Donc c'est à partir de là qu'on a pu commencer à essayer d'expliquer certains aspects de l'histoire et de l'histoire des techniques à partir d'analyses. Et les études de laboratoire dans le domaine de l'archéologie ont ainsi débuté dès l'aube du XIXe siècle, lorsque les classifications méthodiques des éléments chimiques et des molécules ont été développées, associées à des procédés, des méthodes d'analyse qui ont permis de connaître leur nature sur une matière indéterminée et même d'en quantifier les proportions des différentes espèces. Donc ça a été le cas dès 1795, avec de premiers travaux sur l'histoire de la métallurgie qui ont été effectués à Berlin par un professeur de l'Université de Berlin, Martin Heinrich Klaproth, et qui s'est intéressé aux métaux cuivreux et qui a commencé à faire des distinctions entre des métaux à base de cuivre et des métaux à base de cuivre et d'étain, du bronze, et de montrer qu'on pouvait utiliser l'analyse pour classifier temporellement ces matériaux en considérant une évolution technique potentielle et qui a existé dans l'histoire de la métallurgie. Et puis en même temps, en France, c'est Jean-Antoine Chaptal qui s'intéressait aux teintures et à la technique de l'encaustique chez les anciens et qui analysait également des fragments colorés découverts dans une maison à Pompéi. Donc là, on est aussi dans les toutes premières années du XIXe siècle. Donc de nombreux autres chimistes suivront, je vous en parle un instant, et puis d'autres chimistes utiliseront aussi ces techniques d'analyse, et j'en avais parlé dans le premier cours, pour imaginer, synthétiser des nouveaux pigments. Et par exemple, c'est à partir d'analyses chimiques de lapis-lazuli que Guimet a eu l'idée des bons ingrédients à mélanger pour synthétiser l'outremer artificiel, qui a été un des pigments les plus importants de l'histoire de la peinture et de l'histoire des pigments synthétiques. Mais en introduction de ce colloque, je voudrais m'intéresser à la démarche d'un de nos plus célèbres chimistes du XIXe siècle et qui a effectué toute sa carrière ou presque dans cette maison, et qui m'a toujours beaucoup intéressé. Je me suis dit que cette introduction était l'occasion un peu de revenir sur certains de ses textes et sur certains des commentaires qui ont été effectués. Donc il s'agit de Marcellin Berthelot, et qui est né en 1827, et qui est d'abord rentré au Collège de France en 1851 en tant que préparateur de celui qui avait la chaire de chimie à l'époque, Ballard. Puis après, il est lui-même devenu professeur de chimie avec une chaire qui a été spécialement créée à son intention en 1865 par le dédoublement de celle qui existait déjà. C'est la première fois qu'il y avait deux chaires de chimie au sein du Collège de France. Et donc, il occupa cette chaire durant 42 ans, jusqu'à sa mort. 42 ans à faire ses enseignements. Berthelot m'intéresse parce qu'il a développé une démarche très importante à cette époque-là, que je considère toujours importante et très proche de la mienne, et qui associe chimie, archéologie et études des textes et littérature. Et il publia ainsi des traités d'alchimie ancienne, grecque et orientale, de nombreux articles issus de collaborations qu'il effectuait avec de très nombreux archéologues pour analyser les objets qui venaient juste d'être découverts dans des fouilles, notamment en Égypte ou en Mésopotamie. Donc Berthelot, avec aussi un autre Allemand qui s'appelait Hermann Kopp, ont été les deux principaux chimistes qui ont mené, durant la seconde moitié du XIXe siècle, des recherches à la fois scientifiques et érudites, avec une polyvalence intellectuelle assumée et particulièrement rare dans l'histoire. Et Berthelot considérait que son apport pouvait être important parce que l'historien éprouvait dans ces domaines des difficultés dans la mesure où ses recherches nécessitaient des connaissances supplémentaires bien particulières d'ordre scientifique qu'il n'arrivait pas toujours à dominer parfaitement. Je reviendrai sur cette idée qui est très importante aussi à l'inverse pour le chimiste. Et pour ce faire, Berthelot a travaillé à partir de sa double vocation qu'il avait assumée déjà très jeune puisqu'il a eu le bac, il a été bachelier en lettres en 1847, puis en sciences mathématiques en 1848. Il fit ses études classiques au Collège Henri IV. Donc ce qui m'intéresse aussi dans cette histoire, et via le Collège Henri IV également, c'est que c'est ainsi qu'il a fait la rencontre d'Ernest Renan, donc un autre grand personnage du XIXe siècle, et qu'il appelait son compagnon le plus cher de sa vie. Et tous deux eurent chacun une très grande influence l'un sur l'autre. Et c'est aussi un point que je trouve très intéressant pour ses recherches interdisciplinaires. Dans une de ses lettres de Renan, donc à Berthelot, daté de 1850, Renan exprime clairement sa volonté de modifier l'orientation scientifique de Berthelot et regrettant qu'il n'ait, je cite, qu'il n'ait pas pris comme étude officielle les sciences morales, philosophiques ou littéraires propres à contrebalancer le penchant dépressif du chimiste. Grande amitié entre eux. Et c'est ainsi que tous deux suivirent ensemble des cours de sanskrit au Collège de France et ceux du professeur de l'époque, le philologue Eugène Burnouf. Et inversement, certains contemporains des deux hommes ont considéré que les commentaires, les textes de Renan, et notamment son apostasie et son goût pour les vérités véritables, son goût pour la science, étaient dus à sa relation avec Berthelot et à l'influence de Berthelot sur lui-même. Et Ernest Renan a été lui aussi nommé au Collège de France, professeur d'hébreu, en 1862, avant d'être suspendu, ce qui dans l'histoire du Collège est quand même quelque chose aussi de rare et d'important, pour des propos jugés sacrilèges sur Jésus-Christ. Et le pape Pie IX le traita en 1864 de blasphémateur européen. Donc vous voyez toutes les conditions de tout cela, ce qui a fait que le ministre d'ailleurs de l'instruction publique à l'époque a dû supprimer son cours suite à des manifestations hostiles devant le Collège de France. Et ensuite Renan fut réintégré dans sa chaire en 1870, puis élu à l'Académie française quelques années plus tard, puis encore quelques années plus tard, il est devenu administrateur du Collège de France, donc en 1883. Et donc tous deux étaient là, dans cette institution, et ont échangé en permanence. Et c'est vraiment à cette rencontre d'exception avec Renan, puis avec la complicité unique qui a lié les deux hommes, que l'on peut considérer que Berthelot s'est investi très fortement dans cette histoire de la chimie, dans cette histoire de l'alchimie, et dans cette histoire des sciences. Mais il y a eu un autre événement très marquant dans la vie de Berthelot, qui a été l'invitation qu'il a eue pour aller inaugurer le canal de Suez en 1869, et ce qui l'a amené à visiter l'Égypte. Et il a effectué une croisière sur le Nil, comme touriste, d'une certaine manière, mais aux côtés de nombreux scientifiques, artistes et écrivains. Et ça lui a révélé l'importance des connaissances de chimie que possédaient déjà les Égyptiens anciens, les bâtisseurs de pyramides, et auxquelles les alchimistes européens bien postérieurs se référaient en permanence dans leurs textes, comme si cette science provenait à chaque fois de l'ancienne Égypte. Et donc ça égayait sa curiosité, et il écrivait dans un de ses livres, « Les origines de l'alchimie », « Depuis bien des années, je réunissais des notes sur l'histoire de l'alchimie lorsque le voyage que je fis en Orient en 1869, la visite des ruines des villes et des temples de l'ancienne Égypte, l'aspect des débris de cette civilisation qui a duré si longtemps et s'est avancée si loin dans ses industries, reportèrent mon esprit vers les connaissances de chimie pratique que celle-ci suppose nécessairement. » Et donc, ce qui a donné donc cette intuition qu'il était utile de faire des travaux dans ce domaine. Et donc il se proposa alors d'en retrouver les traces, tant dans les textes que par l'analyse de vestiges archéologiques, principalement métallurgiques. Il mit son laboratoire au service des archéologues ou des historiens. Il analysa alors des objets métalliques d'Égypte et de Perse, découverts en particulier par l'égyptologue Gaston Maspero, et puis par un autre archéologue, Jacques de Morgan, qui était également un ingénieur des mines et qui trouvait là aussi avec Berthelot une connivence intellectuelle très très forte. Et il chercha ainsi, alors par exemple, à comprendre la composition des minerais du Sinaï, la nature des alliages de cuivre, la composition des ors égyptiens. Il découvrit des métaux rares dans l'Antiquité, comme un fragment de vase sumérien qui avait été façonné en antimoine métallique, qui est extrêmement rare, et qui avait été découvert dans les ruines de la ville mésopotamienne de Tello. Et puis il étudia aussi des miroirs de verre, du blé également, provenant de Pompéi, retrouvé à Pompéi. Il s'intéressa aussi à la chimie de matériaux résineux, notamment des parfums qui avaient été retrouvés, ou des pommades, ou des parfums qui avaient été retrouvés dans des tombes de princesses à Dachour, donc qui est un site archéologique très important au sud du Caire. Donc je ne suis pas exhaustif, et le nombre d'articles écrits par Berthelot et consistant à décrire ces matières archéologiques est vraiment gigantesque. Il a effectué énormément de travaux, et ça serait fastidieux de les citer. Je dirais qu'il s'intéressa à presque tout. En tout cas, tout ce qu'on lui a amené le passionnait et il trouvait les moyens d'essayer de s'y intéresser. C'est le même cas, d'ailleurs, dans beaucoup d'autres aspects de la chimie. Donc sur l'alchimie, qui va nous intéresser plus en ce début d'après-midi, le voyage en Égypte, donc, et puis l'apprentissage du sanskrit, et puis des langues anciennes, l'apprentissage du sanskrit qu'il avait fait avec Renan, furent ainsi sans doute au départ de son travail sur l'histoire de l'alchimie, et qu'il publia dans trois ouvrages principaux, « Les origines de l'alchimie » en 1885, l'introduction à la chimie des anciens en 1889 et la chimie au Moyen-Âge en 1893. Et ces ouvrages rassemblent des traductions et des commentaires de documents grecs, syriaques, arabes et latins qu'il a étudiés avec quelques collaborateurs. Bien entendu, il n'était pas philologue, il ne pouvait pas se consacrer uniquement à la traduction et même à la création de ces textes. Il traduisit d'abord le papyrus de Leyde, qui est un document alchimique fondamental et très célèbre du IIIe siècle. Il se procura également, utilisant d'ailleurs son pouvoir, puisqu'il était ministre à cette époque-là, écrivant à des ambassadeurs, etc., des documents qui provenaient d'Inde, pour essayer d'avoir d'autres types d'informations. Et il disait vouloir ainsi renouer la chaîne historique entre ces vieux écrits et les auteurs de l'Antiquité déjà connus, d'une part et de l'autre, et des auteurs déjà connus d'une part, et de l'autre, les écrivains du Moyen-Âge, arabes et latins, et de faire ce lien, finalement, entre cette civilisation de l'Antiquité, cette civilisation de l'Orient, et puis, finalement, le monde européen médiéval. Donc ces travaux eurent un impact important, ils servirent à toutes sortes de choses, hein. Ils ont été très lus, et j'étais amusé de voir notamment qu'Anatole France avait utilisé les textes de Berthelot pour, comme base scientifique, comme base théorique, à l'écriture de son roman « La rôtisserie de la reine Pédocle », qui parut en 1893 et qui parle beaucoup d'alchimie. Mais certaines de ses recherches, il faut bien moduler hein, aussi les écrits et les travaux de Berthelot, coordonnés par Berthelot, ne sont pas parfaites du tout et ont été très critiquées et très fortement critiquées. Alors par exemple, Berthelot insista ou commit l'erreur fortement de considérer qu'il a existé une influence grecque sur l'alchimie chinoise et indienne, ce qui a fait l'objet de nombreuses controverses. Mais pour finir cette petite présentation, faire un petit clin d'œil par rapport aussi aux choses d'aujourd'hui, on a d'autres documents qui sont des lettres échangées entre Marcellin Berthelot et ses collaborateurs et qui sont très intéressantes pour voir de quelle manière la collaboration interdisciplinaire a pu se mettre en place durant cette seconde moitié du XIXe siècle. Durant une longue période de 30 à 40 ans, cette recherche s'est développée avec un certain nombre de spécialistes des différentes langues anciennes pour étudier ces textes, pour en faire des traductions commentées. Et ça montre aussi les difficultés de cette démarche et toutes les limites qui sont peut-être toujours d'actualité et qu'on va rediscuter, je pense, aussi dans cet après-midi. Donc ces documents, quand on les regarde, évoquent les difficultés liées à la précipitation pour la publication, nuisible à la précision paléographique, mais qui est toujours quelque chose aujourd'hui d'important. Les limites de la collaboration interdisciplinaire entre littéraires ignorant la chimie et scientifiques qui n'étaient pas toujours soucieux du sens authentique de textes particulièrement imprécis et parfois obscurs, et qui voulaient les balayer d'un revers de la main, parfois trop rapidement. Les difficultés d'interpréter la doctrine alchimique à la lumière d'un rationalisme ou bien dans un moule scientiste où finalement Berthelot voulait absolument tout régler avec les connaissances modernes qu'il avait au milieu du XIXe siècle. Et ça, c'est à rapprocher de nouveau de commentaires d'Ernest Renan et de toute une série de démarches par rapport au rôle de la science. Et Ernest Renan, par exemple, en 1848, écrivait « Organiser scientifiquement l'humanité, tel est donc le dernier mot de la science moderne, telle est son audacieuse mais légitime prétention ». Donc les choses ont bien changé aujourd'hui et les discours sont certainement devenus beaucoup plus nuancés, beaucoup plus subtils. Et nous avons ici quelques éléments donc déjà anciens sur lesquels nous pourrons discuter en cette fin d'après-midi dans la table ronde que je vous propose d'animer avec les orateurs de cet après-midi pour discuter un petit peu de tous ces enjeux et de cette manière de créer ces recherches autour de la chimie, de l'histoire, de l'archéologie, de l'histoire des sciences, avec une discussion tous ensemble. Donc ce n'est pas très bien marqué dans le programme, hein, mais ça peut nous amener jusqu'à 18h ou un petit peu au-delà si vous le souhaitez. Donc vous allez avoir donc plusieurs communications cet après-midi qui vont vous illustrer ces différents aspects. Je voudrais excuser beaucoup Bernard Joly, qui devait être avec nous aujourd'hui, qui a eu un problème de santé il y a quelques jours et qui l'empêche complètement de venir. Donc il habite Lille, il ne pouvait vraiment pas se déplacer. Et donc il m'a prévenu avant-hier soir qu'il lui était vraiment impossible de venir avec nous, ce qui a fait petite modification dans le programme, ce qui laissera un peu plus de temps à certaines des communications, et donc ce qui va nous permettre de débuter tout de suite pour ne pas prendre trop de retard. Donc la première personne à intervenir donc, est Christina Viano, qui est directeur de recherche au CNRS et qui travaille au Centre Léon Robin de recherche sur la pensée antique. Donc c'était aussi dans cet esprit de cet après-midi interdisciplinaire important, parce qu'elle mène des recherches dans le domaine de l'histoire de la philosophie et de la science antique, notamment sur les théories anciennes de la matière, donc des présocratiques aux néoplatoniciens. Elle vous expliquera certainement des choses bien mieux que vous. Et elle a publié en 2006, aux éditions Vrin, un ouvrage qui s'appelle « La matière des choses », le livre 4 des météorologiques d'Aristote et son interprétation par Olympiodore, qui est un livre que j'avais lu il y a quelques années, qui m'a énormément plu et qui m'a donc donné l'envie de la contacter pour voir si elle était prête à nous faire un discours sur ces travaux permettant de réfléchir à l'origine finalement de cette analyse chimique. Là, je vous l'ai mis au début du 19e siècle parce que la chimie moderne existe, mais en fait, on peut y réfléchir différemment. Et donc, sa communication aura pour titre « Mixis et Diagnosis, Aristote et la chimie du monde sublunaire ». Merci beaucoup. Très bien.